Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette année que tu nous as accordée. Seigneur, nous te louons pour toutes les bénédictions, toutes les faveurs que tu nous as données. Nous reconnaissons que c'est l'effet de ta bonté, de ta grâce, de ta fidélité envers nous qui sommes des pécheurs. Et puis Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour ton secours, ton soutien, ta consolation dans les jours difficiles que nous avons dû traverser. Merci encore de nous aider, Seigneur, à terminer cette année 2017 avec cette perspective, Seigneur, cette capacité à faire un bilan pour nos vies et puis, Seigneur, à nous projeter dans l'année à venir avec les promesses que contiennent ta parole. Seigneur notre Dieu, merci de parler à nos cœurs, de nous soutenir ce matin par Jésus-Christ. Amen. Vous voulez retenir un peu ce verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est étonnant, je trouve, notre capacité en tant qu'homme à nous lasser de tout. Même des meilleures choses, les plus belles, des plus profitables, on est capable de se lasser de tout. Vous allez vous lasser du superbe cadeau que vous avez reçu il y a quelques jours. On se lasse même des plus beaux paysages, des plus belles villes, des plus beaux sites. Croyez-vous que les Parisiens, chaque fois qu'ils passent devant la Tour Eiffel, ils font un selfie, ou quand est-ce que vous croyez que les gens qui habitent Saint-Jean-de-Luz, tous les soirs, ils vont au bord de l'océan pour voir le coucher de soleil, parce que c'est splendide. Non, ils y sont allés au début peut-être, mais ils se sont lassés. On se lasse des plus belles sensations. Même dans la vie chrétienne, on se lasse des choses les plus qui nous ont le plus touchés. On est capable de se lasser de notre première réunion de cellules. C'était formidable. On a goûté à la joie, à la fraternité, aux chaleurs d'un foyer, et puis on s'est lassé. Peut-être lassé. On est capable de se lasser même d'avoir enseigné des enfants dans les classes d'école du dimanche, alors qu'au tout début, on était passionnés, on voyait là une œuvre extraordinaire à accomplir. On est capable de se lasser de la louange. Les premières fois qu'on était à la louange, c'était, on le faisait avec une grande joie, et puis on est capable de se lasser. Capable de se lasser de la technique, capable de se lasser même de visiter une personne âgée. Quand vous ressortez d'une première visite, vous avez le cœur qui bat, vous êtes dans la joie, vous avez le sentiment d'avoir été utile, d'avoir apporté une pleine bénédiction, une pleine joie à cette personne. Et puis vous n'y retournez pas parce que vous vous êtes lassé. On est capable de se lasser de l'accueil du dimanche matin. On est capable de se lasser de la distribution du repas du dimanche soir avec main tendue. Là, on était passionnés, on voyait tellement de besoins. Et puis, oh, on est capable aussi de se lasser de cela. Le jour où vous avez commencé peut-être à soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Les engagements missionnaires dont on vient de parler, de soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière régulière. Ou encore la fête du roi, l'offrande missionnaire que l'on veut mettre en place. Je prends cet exemple parce qu'il en parle au verset 6. Mais on est capable de se lasser même de cela. La première fois que vous avez pris part à cette offrande missionnaire, votre cœur était dans la joie parce que vous étiez en train de donner pour l'œuvre de Dieu et vous saviez que ça allait porter du fruit. Vous saviez que les missionnaires attendaient cela, que quelqu'un va prêcher la parole de Dieu, va encourager d'autres à l'autre bout de la planète parce que vous avez donné à cela. Que des gens vont connaître Jésus-Christ simplement parce que vous êtes engagé dans ce domaine-là. Et vous aviez une profonde joie, vous étiez attentif au compte, et vous étiez prêt, vous attendiez vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Et puis vous vouliez entendre parler des fruits. Vous lisiez les comptes rendus missionnaires parce que vous vouliez voir le fruit de votre investissement dans ces gens. Puis, peut-être vous vous êtes lassé. Parce que bon, ça fait 20 ans qu'on fait cette offrande missionnaire, ou plus même. On est capable de se lasser de tout. On est capable même de se lasser des choses les plus précieuses. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes rentré dans une église en tant que chrétien? Comment vous avez été accueilli? Vous étiez ému aux larmes parce que vous aviez goûté à l'amour fraternel. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais avec le temps, on s'habitue même à ces choses-là. Et puis maintenant, si on ne vous a pas passé un coup de fil ou si on vous a oublié un temps... Vous en faites la remarque d'une manière un peu piquante parce que, voilà, on s'est lassé même des plus précieux trésors de la vie chrétienne qu'est la communion fraternelle. On se lasse de tout. C'est comme si le temps pouvait épuiser, étouffer, détruire tout enthousiasme que l'on peut avoir dans la vie chrétienne. Paul dit ici, ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas de faire le bien. La vie chrétienne, c'est une marche parfois difficile, souvent à contre-courant, et c'est une marche longue. Elle procure les plus grandes joies, les plus belles amitiés, les plus grandes victoires, mais on est aussi capable de se lasser même de cela. Et donc, à la fin de cette année, j'aimerais qu'on se rappelle de cette parole de l'apôtre Paul. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. On récolte toujours ce que l'on sème. C'est ce qu'il dit dans les versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous savez, si vous semez la paresse dans votre vie, vous n'allez pas récolter le succès. Vous n'attendez pas à récolter le succès. Si vous semez la colère, vous n'espérez pas récolter la paix. Si vous semez le mensonge, et vous espérez récolter la confiance, ça ne marche pas non plus. Non, on ne se moque pas de Dieu. Et Paul énonce ici une loi qui est universelle. On récolte ce que l'on sème. C'est une règle simple, c'est une règle prévisible, c'est une règle impartiale, immuable, qui ne souffre aucune exception. C'est comme la loi de la pesanteur. L'identité du semeur ne... importe peu, c'est ce qu'il aura semé qui importe. Si vous semez du blé, vous récolterez du blé. Si vous semez des salades, vous récolterez des salades. Si vous semez des carottes, vous récolterez des carottes. Si vous semez des tomates, vous récolterez des tomates. Vous avez compris le principe ? Bon. Eh bien, le même principe s'applique dans la vie morale et spirituelle. Et c'est ça qui est terrible. Eliphaz, dans le livre de Job, dit « Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Dieu dit en Osée, chapitre 8, verset 7, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Chapitre 10, verset 13, « Vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité. » Verset 12, « Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. » C'est une chose terrible, parce que nous sommes pécheurs et que par notre nature, nous semons le péché et nous récoltons ces fruits qui sont souvent amers, qui sont toujours amers. Pour une bonne part, le caractère de quelqu'un, c'est le produit des semences que l'on a mis, plantées dans sa vie à son début. Un enfant qui grandit en faisant qu'à sa tête deviendra un adulte qui n'en fait qu'à sa tête. Le caractère de quelqu'un, c'est comme s'il ne peut pas être changé tant que sa nature n'est pas changée. Et sa nature, elle ne peut être changée que par une nouvelle création qui se produit lors de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, lui, il a semé une vie parfaite. Sa vie parfaite a été semée et il a récolté la vie éternelle. Celui qui sème pour la justice récolte la vie éternelle, moissonne la vie éternelle. Et nous tous, chrétiens, nous pouvons placer, c'est en plaçant notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, en nous identifiant à lui, que nous pouvons, à notre tour, récolter la vie éternelle. Uniquement en nous identifiant, en nous associant à lui, que nous pouvons récolter la vie éternelle. Il dit ici, ne vous lassez pas de faire le bien, mais qu'est-ce que c'est le bien ici dont il parle ? Il y a un lien entre ce que l'on voit pousser dans nos vies et ce que l'on a semé, c'est clair. La chose, c'est que parfois on sème les choses en secret et elles poussent à la vue de tous. Ça fait froid dans le dos. De ce fait, on a cette terrible tendance à regarder les autres et à regarder les fruits dans la vie des autres et puis on se dit, oula, là, il y a ce fruit-là, c'est qu'il y a eu cette semence-là. Et puis, on essaie de se comparer les uns aux autres. Regardez ce qu'il dit dans le verset 26, chapitre 5. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. » Vous voyez comment ça fonctionne ? Si nous trouvons quelqu'un qui fait mieux que nous, on a tendance à le critiquer. On a tendance à l'envier. Parce que on va essayer de le rejoindre ou de le faire descendre un peu plus bas. Si par contre la personne fait moins bien que nous, nous l'utilisons pour nous glorifier nous-mêmes. Je suis pas comme lui quand même. Merci Seigneur, je suis pas comme lui. Vous voyez le genre? Paul appelle cela de la vaine gloire. De la vaine gloire. Vous avez remarqué à quel point il est difficile de nous réjouir vraiment des succès des autres. C'est parce qu'on a cette pensée toujours de se comparer les uns aux autres. C'est d'autant plus difficile de se réjouir des succès des autres là où nous-mêmes nous avons échoué. Alors là... Et même, c'est difficile de nous réjouir des succès des autres là où nous avons nous-mêmes réussi, si je puis dire. C'est comme si, quand les autres réussissent là où on a réussi, c'est comme si ça portait atteinte un petit peu à notre succès. C'est-à-dire, on aime bien être sur le podium, vous voyez, mais sur la plus haute marche. Dès l'instant où tout le monde est sur le podium... Bon, est-ce que je vais être bien vu là ? Donc c'est ça qui nous plaît pas. On préférerait avoir les gens un peu plus bas. Parce que ça, ça nous permet de dire, voilà, je suis quelqu'un quand même pas mal. Mes fruits, c'est quand même bien. Vous avez remarqué comment, quand une personne a le bac, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh oui, c'est bien, t'as le bac, c'est bien. Bon, tu sais, aujourd'hui, le bac, on le donne à tout le monde, hein, tout de suite. À mon époque, c'était rare, les gens qui avaient le bac. Oh là là. À mon époque, avoir une mention. Oh, mention très bien, tu faisais la couverture du journal local. Ta photo comme ça. Et on essaye de critiquer, d'abaisser les autres. Pourquoi est-ce qu'on en réagit comme ça? Parce qu'on a besoin, on a un besoin viscéral de se savoir dans l'élite comme meilleur que les autres. Mais l'Évangile, et tout ce que vient de traiter l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, il explique que la vie par l'Esprit, l'Évangile nous aide et nous enseigne à vivre différemment. Au verset 10, il dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères. » Et pour qu'on comprenne c'est quoi le bien ici, comment est-ce que on va pratiquer l'Évangile, il donne un exemple dans les versets, chapitre 6, verset 1. « Frères, si un homme vient être sur faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Avec un frère qui est tombé dans le péché, il est ici dit « surpris en faute ». Alors, il y a deux interprétations à cela. Il peut être pris en flagrant délit de péché, ou peut-être, selon d'autres traductions, « surpris par le péché ». Hein, il n'avait pas forcément prémédité de péché, mais il n'était pas sur ses gardes, où il a pensé qu'il pouvait flirter avec une tentation, et puis paf, bref, il est tombé. Et la réaction charnelle que l'on peut avoir, c'est avec un frère qui est tombé, c'est, eh bien, merci Seigneur, je suis pas comme lui. C'est pas du tout cela. Parfois, on peut même tomber dessus, comme la foudre, et le condamner. Mais Paul dit ici, redressez-le. C'est-à-dire, aidez-le à se relever. Le sens grec, c'est restaurer, réparer. C'est raccommoder ce qui a été abîmé. Et c'est tout le contraire de jeter, condamner et détruire. L'Évangile, il nous aide à... Il nous enseigne à aider l'autre à se relever. En reconnaissant que sa faute, c'est une faute. Péché, c'est un péché. On doit conduire la personne vers une saine repentance. On doit l'aider à confesser et à abandonner son péché et à saisir le pardon qui est en Jésus-Christ. Et là, il dit avec un esprit de douceur, en se souvenant qu'on est soi-même des pécheurs, en se souvenant qu'un jour, c'est nous qu'on viendra relever. Et on voudrait qu'on le fasse avec douceur, avec grâce. Lorsqu'on discipline quelqu'un pour une faute, on doit toujours avoir en vue sa restauration. Et la douceur avec laquelle s'opère la discipline, eh bien, va avoir un impact énorme dans la restauration. Il ne faut pas que la personne se décourage. Il ne faut pas que la personne abandonne, capitule, mais qu'elle se relève. Elle a besoin de se sentir aimée comme un frère, non pas ennemi. Et Paul ajoute un avertissement ici. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Les plus spirituels peuvent aussi tomber un jour ou l'autre. Nous sommes tous faits avec la même patte, capables des mêmes chutes. Et cette pensée, elle doit nous aider à avoir la bonne mesure, la bonne attitude, un cœur gracieux envers la personne qui a été surprise en faute. Et puis au verset 2, l'apôtre Paul, il dit, il rappelle une deuxième responsabilité des chrétiens spirituels envers ceux qui sont tombés, c'est maintenant qu'ils sont relevés, de les maintenir debout, de les garder debout. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelqu'un, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même pour lui seul et non par rapport à autrui. Paul rappelle cette seconde responsabilité des chrétiens spirituels envers ceux qui sont tombés. Maintenant, il a besoin d'apprendre à se tenir debout. Il a besoin d'apprendre à résister à la tentation. Il a besoin de mettre en place une stratégie, une manière de penser nouvelle, conforme à l'Évangile, pour qu'on soit préservé d'une nouvelle chute. On a besoin d'apprendre à résister à la tentation. Parfois, la personne supporte un fardeau qui est pesant. Et ce fardeau pesant peut expliquer sa chute ou sa difficulté à se tenir debout ou à marcher ou à avancer. Et ce fardeau, ça peut être une blessure dans sa jeunesse, une infirmité, une situation de stress, un environnement hostile à la foi. Tout cela, ça peut expliquer qu'une personne a du mal à avancer. Nos fardeaux, ils peuvent expliquer notre chute. Ils ne déterminent pas notre chute. Ils ne provoquent pas notre chute. Mais on peut comprendre qu'une personne a du mal à avancer à cause du fardeau qu'elle porte. Et dans ces cas-là, Dieu nous dit, mais portez les fardeaux les uns les autres. Soutenez-vous. Il y en a un qui est faible? Soutenez-le. Ça pourrait être vous la prochaine fois. Soutenons-nous les uns les autres. La personne charnelle, elle va dire, « Oh, moi, ça va. Je ne suis pas comme celui-ci qui tombe tout le temps. Moi, j'avance. En avant !» Mais le frère qui marche par l'esprit, il sait qu'il ne peut pas avancer sans son frère. Qu'il n'est pas lui-même meilleur. Pas plus capable. Qu'il ne ferait pas mieux que l'autre s'il avait connu les mêmes circonstances. Il regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Il regarde celui qui est tombé comme étant au-dessus de lui-même. Il sait que s'il se tient debout, c'est l'effet de la grâce de Dieu dans sa vie et non pas de ses mérites, de ses efforts. Il ne se compare pas aux autres parce qu'il sait que chacun a une course différente, avec des capacités naturelles différentes, avec des dons différents, et même avec des points de départ différents. Si vous êtes en tête dans une course, mais que vous avez commencé la course 2 kilomètres plus tôt que l'autre, plus tard que l'autre, ben, pourquoi est-ce que vous vous glorifieriez d'être devant? On n'est pas parti du même point de départ les uns et les autres. Parfois, on sort de situations catastrophiques, de vies complètement détruites. On porte un poids, un fardeau lourd dans la vie de chrétien. Pourquoi est-ce que je me glorifierais aux dépens d'un autre qui porte un fardeau bien plus lourd que le mien? Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres pour pouvoir accomplir la loi de Christ. Chacun aura à répondre de lui-même, de sa propre conduite devant le Seigneur. Le jour où on se présentera devant le Seigneur et que notre vie sera exposée devant lui, on ne pourra pas dire « Ah oui, là je suis tombé, mais faut voir l'autre, comment il est tombé, mon frère, là, un tel, il est tombé pire que moi. » Vous voyez dire ça devant le Seigneur? Ça ne marche pas. Chacun, et c'est là le sens du verset 5, chacun portera sa propre charge, sa propre responsabilité. Les fautes des autres nous apprennent à nous connaître nous-mêmes, non pour nous élever au-dessus d'eux, mais plutôt pour nous rappeler que nous ne vivons que de grâce. Et c'est pour ça que là, dans le soutien que l'on va se porter les uns aux autres, ce sera beaucoup la prière. Priez. Vous voyez une faiblesse chez votre frère, chez votre sœur. Prions les uns pour les autres. Prions pour que la victoire leur soit accordée. Enfin, au verset 6, nous devons nous aider, et ça c'est la troisième responsabilité d'un chrétien spirituel, c'est de nous aider à nous édifier par la parole. Notre responsabilité envers ceux qui sont tombés est de leur faire part des promesses de Dieu, du fonctionnement de leur cœur, montrer le fonctionnement de l'Évangile, essayer de l'appliquer à leur cœur pour qu'ils comprennent et soient transformés. La plupart du temps, nos chutes sont liées à un amour inapproprié pour une chose. Et cette chose, elle a été élevée en idole dans nos cœurs. Et c'est souvent nous-mêmes, ou notre réputation, ou le sexe, ou l'argent, la gloire, la reconnaissance des hommes, ou la réussite. Et on élève ça à un tel niveau que la moindre chose qui pourrait porter atteinte à cela, ça nous affecte. Et puis Paul dit, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. J'ai d'abord traité des frères dans la foi, mais aussi il nous demande de pratiquer le bien envers les incroyants. Et je suis très heureux de ce que l'Église s'implique dans ce domaine davantage aujourd'hui. De pratiquer le bien, l'aide, l'encouragement, l'amour et le témoignage de la vérité de l'Évangile. On le fait en visitant des démunis, en visitant des migrants, des prostituées, des personnes en difficulté, dans leur détresse, en étant une bénédiction partout où Dieu nous place, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans notre quartier, dans notre ville. C'est très important ça. Et ça nécessite le même cœur. Les incroyants sont très sensibles. Si vous les aidez avec condescendance, comme je t'aide, tu comprends? Je suis plus grand que toi puisque c'est moi qui t'aide. Vous voyez la chose? Quand on fait ça, c'est hyper blessant. Personne ne veut être aidé par ce genre de personne. Par contre, si on se met à portée de l'autre et puis qu'on l'aide à se relever, alors là, ça c'est complètement différent. Cette attitude de cœur qu'il nous faut nourrir, et ça c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il s'est descendu ici-bas, il a goûté à notre misère, il s'est fait simple homme pour nous prendre et nous relever avec lui. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître, j'aime ce verset, verset 15, chapitre 2, verset 15, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Et j'aime cette parole parce que c'est la meilleure façon pour les chrétiens de faire mentir ceux qui critiquent le christianisme et de faire le bien envers les non-croyants. Le centre de notre témoignage envers les non-croyants, c'est notre bonté. C'est la bonté que l'on exprime envers eux. Vous savez que dans les prisons, les visiteurs de prison chrétiens, ils visitent et en période de fête, comme cela, ils apportent des cadeaux à tous ceux qui veulent bien recevoir leur visite. Donc les chrétiens apportent des chocolats aussi aux musulmans et à tous les prisonniers. Mais les musulmans... Les visiteurs de prison musulmans, ils ne visitent que les musulmans. Et ils ne soutiennent et ils n'aident que les musulmans. Et les musulmans sont touchés par cette différence. On est aimé simplement parce que on est des hommes. Il dit, Paul, nous moissonnerons au temps convenable. Charles Roche-Dieu, dans un de ses commentaires du Nouveau Testament, il dit « On trouve plus facilement du temps pour critiquer les frères en la foi, mais combien on est plus heureux en pratiquant le bien. » Et ça, c'est un peu le résumé de ça. On est plus heureux en pratiquant le bien. La raison que l'on va critiquer ou que l'on va chercher une vaine gloire, c'est que le fruit dans la critique, il est immédiat. Si c'est moi qui critique, comme je suis le critiqueur, je suis meilleur, forcément. On se place en juge, quoi. Donc on a un sentiment immédiat comme de « Oh, je suis bien, je suis grand. » Mais faire le bien, comme on l'a vu, ça se fait d'une manière humble, pour le bien de l'autre. Et le fruit de cela, ça peut prendre du temps pour arriver à maturation. Mais ce qui doit nous encourager ici, c'est que tôt ou tard, dans ce siècle-ci ou pour l'éternité, le bien, la pratique de l'évangile, de relever l'autre, de secourir l'autre dans sa course, eh bien, ça portera du fruit. La moisson, elle peut tarder, mais la moisson ne peut pas manquer. Un jour ou l'autre, le bien que vous semez produira un fruit abondant. Dès cette vie-ci, ou dans la vie à venir. C'est pourquoi semer pour le bien. Verset 10, il dit « Pendant que nous en avons l'occasion ». Et ça ne signifie pas « lorsqu'une occasion se présente, je fais le bien ». Non, l'occasion, c'est notre vie tout entière. Quand on n'aura plus l'occasion de faire le bien, ce sera quand on aura quitté cette terre. Ici, on a l'occasion. Et dans quelques heures, va s'ouvrir devant nous toute une année. Et on doit avoir ça en se disant « voilà mon occasion ». Oh, voilà mon occasion ! Je ne voudrais pas avoir passé une nouvelle année sans avoir semé du bien. Mais là, j'ai toute une année pour le faire. Et je vais le faire avec passion. En m'attendant à ce que le fruit vienne, comme le moissonneur. Notre vie entière, c'est une occasion de servir, de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. N'attendez pas, faites-le dès aujourd'hui. Vous allez vous réveiller un jour, vous aurez 50 ans. Ou comme le dit le chant des SMS, vous avez bientôt plus de batterie. J'aime bien l'expression. Si nous avons un besoin irrépressible de nous glorifier, ne le faisons pas aux dépens des autres frères, ou des personnes qui ne croient pas en Christ. Mais faisons-le comme l'apôtre Paul, au verset 14, faisons-le de la croix de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit, je termine avec ce verset. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Vous voyez, ça correspond au verset 26 de la vaine gloire. Parfois, on cherche, en se comparant aux autres, on cherche une vaine gloire. Mais Paul, il dit, vous voulez vous glorifier? Alors glorifiez-vous de la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Christ qui va tout changer. Il y a deux religions fondamentales qui existent dans ce monde. Deux seules. Il y a celle qui s'appuie sur ce que Dieu a fait, et puis il y a celle qui s'appuie sur ce que les hommes ont fait ou font. Deux religions. Est-ce qu'on croit à ce que Dieu a fait, ou on se croit à ce que les hommes font? Celle qui s'appuie sur ce que Dieu a fait, c'est l'évangile de Christ, qui a pourvu au salut de l'homme par son propre sacrifice à la croix. La religion qui s'appuie sur ce que font les hommes englobe toutes les autres religions. Parce que toutes les autres religions ont cette même approche. C'est moi qui m'élève. C'est moi qui m'appuie sur les autres. C'est par mes œuvres que je peux plaire à Dieu. Or, la Bible tout entière dit « Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. » C'est par la foi que l'on devient agréable à Dieu, la foi en Jésus-Christ. Les autres religions cherchent une auto-justification par les œuvres, cherchent à plaire à Dieu par différentes formes de mérite et d'efforts humains. Et cette religion, elle nous pousse à vouloir paraître meilleurs que les autres, à utiliser leur chute pour nous glorifier, à critiquer ceux qui font bien ou mieux pour nous élever à notre tour. Et vous vous rendez compte que cette religion-là, parfois, elle peut être évangélique aussi. Chez les évangéliques, peut-être. Moi, je suis meilleur parce que moi, je fais comme ça. Moi, je suis meilleur parce que moi, je fais comme ça. Se glorifier de cela, c'est de la vaine gloire. Se glorifier de rien d'autre que de la croix de Christ, c'est se rappeler, par contre, que tout ce que je suis, c'est l'œuvre de la croix. C'est ce qu'il a opéré pour moi. Tout ce que je possède, c'est par la grâce de Dieu manifestée à la croix pour moi. Tout le travail accompli par moi, c'est encore l'effet de la grâce de Dieu envers moi. J'ai reçu, comme l'a dit David tout à l'heure, beaucoup de cartes postales dans ma boîte aux lettres ces derniers jours, avec des mots très agréables de nombreux frères et sœurs. À tel point qu'Anne-Sophie s'est même demandé si vous aviez été payé pour dire toutes ces choses. Mais je sais que toutes ces amitiés sont dues à l'œuvre de Christ en vous et en moi. J'en suis convaincu que rien de ce qui a pu être une bénédiction dans ma vie, dans votre vie, n'est le fruit de ma propre nature, mais de celle que Jésus-Christ a plantée en moi. Et je sais que votre affection envers moi, c'est le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ dans votre vie, vous rendant capable d'aimer un homme comme moi. C'est l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que les uns et les autres, si on doit se glorifier de quelque chose, c'est de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Se réjouir de cela. Et c'est là, je pense, la chose la plus importante, c'est que si je comprends cette vérité-là, alors l'œuvre de Christ est constamment sous mes yeux. Alors, ma vie, elle est toujours au bénéfice de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de vieux que j'ai commencé il y a longtemps. Non, non, c'est quelque chose qui coule dans ma vie jour après jour. Et de ce fait, je ne peux pas me lasser. Je ne peux pas me lasser. Puisque chaque jour, votre amour envers moi, c'est l'effet de la croix de Christ dans votre vie. Alors, je loue Dieu pour la croix de Christ dans votre vie parce que ça produit cet effet-là dans ma vie, à moi aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on ne peut plus se lasser. Et c'est pour ça que l'œuvre de Jésus-Christ, la croix de Christ, l'évangile, il doit être au cœur de notre vie. Et c'est ce qui va nous permettre de nous engager pour 2018 avec une pleine bénédiction, avec une pleine assurance, avec le désir de servir, de le glorifier, de faire du bien, sans se lasser, sans se décourager, sachant que l'œuvre va produire un fruit abondant. Son œuvre va produire un fruit abondant dans notre vie.